À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui vivent dans la rue et celles qui essayent de leur apporter un peu de baume au cœur. Ce sera en seconde partie d'émission. On fera un petit tour aussi à la Villa Bloch qui va ouvrir ses portes à toutes et tous à partir de ce week-end. Mais tout de suite, un point sur la rentrée scolaire dans la Vienne en compagnie de Fabrice Barthélémy qui est directeur académique des services de l'éducation nationale, c'est-à-dire d'AZEN de la Vienne. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour, après ces 15 jours, 3 semaines là, de rentrée scolaire. Comment ça s'est passé déjà, globalement?
Alors cette rentrée, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une rentrée qui s'est passée dans une ambiance plutôt sereine. Elle a été extrêmement bien préparée, ce qui nous a permis d'avoir des enseignants dans chacune des classes. Et finalement... de pouvoir répondre à cette nécessité d'accueillir tous ces enfants. Par ailleurs, c'était aussi l'occasion de faire un certain nombre de mesures d'ouverture de classe dans les secteurs où il y avait une augmentation d'effectifs non prévisible, dirons-nous, et de mettre ainsi tout le monde dans les meilleures conditions, à la fois les élèves et les enseignants, pour faire une belle rentrée.
C'était plutôt dans quel secteur qu'il a fallu rouvrir des classes
On a rouvert des classes sur des secteurs qu'on avait identifiés comme pouvant avoir des évolutions d'effectifs autour d'un secteur périurbain, autour de Poitiers en particulier. Quelques écoles plus rurales également qui étaient en seuil de limite pour accueillir et qui ont accueilli des élèves supplémentaires pendant l'été. Donc on a mis en place ce qui était nécessaire pour que ces élèves soient accueillis dans les meilleures conditions.
Et pour ce faire, vous avez donc décidé de puiser dans la liste d'attente, on va dire, des personnes qui ont été reçues au concours des professeurs.
Alors, on a un ministère très compliqué à comprendre. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'avais gardé des moyens en poste pour pouvoir faire des ouvertures de classe. Donc, ça, c'est ce qui concerne les moyens. Après, l'autre question que vous posez, c'est les ressources humaines, donc les personnels qui pourraient venir combler et aller sur ces postes-là. Donc effectivement, dans la mesure où nous avons eu des besoins supplémentaires, on a eu la possibilité d'aller recruter ou reprendre des enseignants qui étaient sur la liste complémentaire, un certain nombre, voire un nombre assez important, qui sont maintenant donc des enseignants stagiaires, donc que nous accueillons, et je remercie d'ailleurs les enseignants des écoles qui accueillent ces personnels stagiaires, parce que c'est aussi accompagner un jeune professeur dans une prise de fonction, même s'il s'est formé, même s'il a passé un concours, il y a quand même une nouveauté pour lui. Je remercie aussi tous les conseillers pédagogiques, tous les professeurs formateurs qui vont tutorer pendant toute l'année scolaire ces enseignants stagiaires qui sont venus donc renforcer les moyens du département de la Vienne.
Alors, en cette semaine, vous étiez en déplacement pour notamment voir les évaluations en CE2 et CM2. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, à tous les âges, toutes les classes, on va passer par une évaluation?
Alors, depuis 2017, ont été mises en place des évaluations nationales. Donc, elles ont commencé sur le niveau CP, avec une évaluation à l'entrée au CP, une évaluation à la mi-CP, puis après, une évaluation à l'entrée en CE1. L'objectif des évaluations, ces premières évaluations, était de pouvoir identifier les forces et les faiblesses des élèves et pouvoir adapter en fait les pratiques pédagogiques avec une mesure, comme je vous le disais, même à la moitié de l'année scolaire, qui continue d'ailleurs encore maintenant, pour s'assurer qu'ils atteignent les compétences indispensables, qu'on appelle fondamentales, pour réussir. Et on continue cette analyse à l'entrée au CE1, de manière encore une fois à soutenir. Le fruit de ce travail étant très positif, ça a été développé au-delà. Donc on a effectivement eu l'année dernière des évaluations CM1. Cette année, on a des évaluations à l'entrée au CE2 et à l'entrée en CM2. Puis évidemment, on a toujours celle de 6e. Celles de quatrième qui ont été également rajoutées l'année dernière. Et on a des évaluations nationales qui ont lieu aussi à l'entrée en seconde. Donc toutes ces évaluations, elles ont vraiment pour objectif premier de permettre aux enseignants d'identifier les fragilités et les forces de leurs élèves et de pouvoir ainsi bien adapter la pédagogie et l'accompagnement. Elles ont aussi un rôle de communication en direction des familles, puisque la mission des enseignants, c'est aussi de pouvoir rendre que les familles prennent connaissance de ces résultats, puis de les engager aussi, pourquoi pas, dans des actions qui pourraient être menées auprès de leurs enfants, leur permettant d'avoir davantage d'accès à la lecture, en sollicitant les enfants, un gamin de CP, on peut lui demander de lire des panneaux, on peut lui demander de lire des tas de choses qui sont simples. Il n'y a pas besoin d'avoir un livre forcément pour faire de l'apprentissage de lecture. Mais si on incite les parents à rentrer dans ces démarches-là, c'est aussi aider leurs enfants et leur donner les bons conseils pour le faire. Voilà. Donc il y a ces usages-là qui sont prioritaires pour nous. Et puis je rappelle que c'est des évaluations qui sont diagnostiques. Donc l'objectif, c'est vraiment de mesurer à un instant T le niveau d'un élève. Ce n'est pas définitif, c'est juste à un instant T, le moment de la rentrée, sur les attendus qui sont ceux qui sont normalement attendus pour un enfant entrant en CP. C'est-à-dire que tout son parcours de maternelle en fait, est évalué, si on peut dire, via le diagnostic à l'entrée au CP.
Si on passe au niveau au-dessus, le collège, ce qui se met en place cette année, ce sont les groupes de besoins. Lors des débats, ça s'appelait groupe de niveau, mais en tout cas, des groupes qui permettent de spécialiser un petit peu les apprentissages pour certains élèves.
Alors, effectivement, les groupes s'appellent définitivement des groupes de besoins, puisque l'objectif est bien de répondre aux besoins des élèves. Dans ce que nous faisons au quotidien, c'est bien ça notre objectif. Ils se mettent en place donc cette année en 6e et en 5e sur deux disciplines, le français et les mathématiques. Ça permet donc, encore une fois, à partir de ce que peuvent identifier les enseignants pour ceux du premier degré, dans la communication qu'il y a dans la liaison entre le premier degré et le second degré, ou pour ceux du collège, parce qu'ils connaissent déjà leurs élèves, d'identifier un certain nombre d'élèves qui seraient plus fragiles, voire aussi des élèves qui sont plutôt en réussite. Et comment répondre à cette hétérogénéité ? Bien, la réponse, c'est justement de construire des groupes de besoins. Ils ont toute latitude sur l'organisation. La ministre exprime de la souplesse, puisqu'effectivement, c'est une nouveauté. Et elle doit s'adapter au contexte. Le fonctionnement d'un établissement avec 600 élèves n'est pas le même que le fonctionnement d'un établissement avec 250. Les ressources ne sont pas tout à fait les mêmes. Et de fait, chacun s'adapte pour répondre avec quand même cet objectif premier de répondre à la fragilité d'un certain nombre d'enfants pour leur permettre bien d'acquérir les fondamentaux en français et en mathématiques pour ainsi être plus à l'aise dans l'ensemble des matières qu'ils vont avoir à suivre dans leur cursus.
J'imagine qu'il y a eu pas mal de questions au niveau des chefs d'établissement pour savoir comment mettre ça en place, parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner en classe et là, il faut regrouper des classes dans des groupes de niveau, groupes de besoins.
Alors, les chefs d'établissement, en réalité, ce n'est pas sur eux que c'est porté le plus de complexité, puisqu'on va dire qu'aujourd'hui, un collège travaille déjà avec des groupes, pas forcément des groupes de besoins, mais on a des groupes de langue vivante, par exemple, qui impose de toute façon une organisation spécifique qui modifie le fonctionnement par classe. Donc ils savent faire ça, ça fait bien longtemps qu'ils savent faire ça. Donc on les a accompagnés et on a échangé avec eux depuis le mois de mars pour construire et les accompagner sur les modalités d'organisation. Ils ont sans doute eu quelques complexités à lever et à résoudre pendant la mise en œuvre des emplois du temps. Mais aujourd'hui, dans l'ensemble des collèges que j'ai visités, j'en ai visité un certain nombre, le point de vue organisationnel est réglé. La question reste comment est-ce qu'on répartit les élèves dans les groupes, comment est-ce qu'on constitue les groupes. Et là, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les pratiques. Les enseignants vraiment s'emparent de cette nouveauté, vont avoir des choix qui sont totalement différents, mais pour autant, gardent quand même bien en tête cet avantage qu'ils ont maintenant, c'est d'être sur des groupes à effectifs réduits, d'une manière globale. Ça fait toujours un groupe de plus que le nombre de classes, donc ça permet quand même d'avoir moins d'élèves par classe, et puis de réduire l'hétérogénéité dans chacun de ces groupes. Donc ça a quand même une facilité dans les pratiques pédagogiques et aussi la facilité dans la gestion de classe puisque les classes sont un peu moins nombreuses lorsqu'elles sont constituées en groupe.
Et alors si on arrive à la fin du collège, il y a une nouveauté qui se met en place, ce sont les prépas secondes à certains endroits dans l'académie. Comment ça se passe ?
Alors les prépas secondes, on est vraiment dans un dispositif expérimental, là on peut vraiment le dire, puisqu'il n'est pas généralisé à l'ensemble des secondes. Il y a une classe de prépas secondes par département, donc en l'occurrence pour la Vienne, ça se passe au lycée Alinor d'Aquitaine. Donc l'objet c'était de permettre à des jeunes, on va dire des jeunes maintenant, puisqu'on arrive en seconde et plus, on n'est plus sur vraiment des enfants, mais des jeunes qui auraient échoué au DNB, de pouvoir avoir une année supplémentaire.
Le brevet.
Le diplôme national du brevet, pardon. Le diplôme national du brevet. D'avoir une année supplémentaire dans le cadre de cette prépa seconde pour renforcer les fondamentaux, leurs compétences. Et puis, pourquoi pas aussi renforcer leur parcours en termes d'orientation et envisager d'autres choses que ce qu'ils ont déjà obtenu, puisque pour la plupart d'entre eux, les orientations sont passées, les affectations et les établissements étaient identifiés. Et sur la base du volontariat, on a quand même un nombre d'à peu près une vingtaine de jeunes qui se sont positionnés pour se dire je refais une année, je profite de ce temps pour vraiment reprendre, consolider mes compétences et peut-être affiner aussi mon projet qui n'était pas forcément le plus solide.
Et puis peut-être, si on passe au lycée, c'est la fin de la mise en place de la réforme du lycée professionnel. Voilà, quels sont les derniers ajustements ?
Alors, fin de la mise en place, mais c'est le vrai démarrage de la mise en place totale, surtout, puisque en l'occurrence, l'année dernière, on était sur la mise en œuvre progressive d'un certain nombre de mesures. Là, on va avoir le gros changement, c'est sur une mesure qui touche la classe de terminale, puisque maintenant, il y a ce qu'on appelle un parcours en Y, ça veut dire des élèves qui vont choisir de finir leur année vers des stages en entreprise pour construire un projet d'insertion professionnelle, ou bien des élèves qui vont choisir de poursuivre en fait des enseignements au sein de leur lycée pour consolider leurs compétences et aller vers une poursuite d'études. Mais ce travail-là, même s'il se porte sur la fin de l'année terminale, c'est un travail qui est construit depuis la rentrée de seconde, j'ai envie de dire, puisque on travaille avec les élèves tout au long de leur parcours, à travers différentes activités qui sont proposées en accompagnement personnalisé, par exemple, pour renforcer leur projet, le consolider, et pour arriver en fin de cycle, si je puis dire, bien, à faire ce choix des dernières semaines, puisqu'on parle de 6 semaines qui sont modifiées.
Merci beaucoup Fabrice Barthélémy, donc directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne, d'être venu nous parler de cette rentrée scolaire et vous reviendrez peut-être nous parler de ce qui se passe le 25 septembre, un événement autour du numérique pour les collégiens.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Pour introduire notre prochaine invitée, je vous propose de découvrir ce titre, L'inconnu de la rue, par l'association Il y a de la joie.
J'avais su qu'un jour je pioncerais à la rue. Oh, si tu avais su qu'on se serait perdu, comment puis-je oublier ce regard dégoûté? Comment avec tes yeux de roi, assis devant toi, regarde-moi. T'es pas mieux que moi, avec tes airs de roi, assis devant toi, regarde-moi. C'est moi, l'inconnu de la rue, qui te fait peur.
Je voudrais remercier ceux qui m'ont tant donné, les histoires partagées, les regards échangés. Je voudrais remercier ceux qui se sont arrêtés, des liens d'amitié qui me font espérer.
t'es pas mieux que moi, avec tes airs de roi, assis devant toi, regarde-moi. T'es pas mieux que moi, avec tes airs de roi, assis devant toi, regarde-moi.
95.9.
L'inconnu de la rue, un titre de l'association Il y a de la joie, dont l'une de ses représentantes est ici avec nous aujourd'hui, c'est Astrid Ponroy. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler de cette association qui est implantée dans plusieurs villes de France, qui est née en 2019. Racontez-nous un petit peu quel est l'objectif de cette association, comment est-elle née ?
Alors c'est une association qui a pour but de simplement donner la joie aux personnes sans abri en venant partager avec eux des moments de musique, en leur proposant de chanter avec nous. Et on débute aussi par avec un café ou un verre d'eau pour amorcer la discussion.
Et comment s'est-elle implantée petit à petit à Poitiers ? Elle est née elle est en région parisienne, je crois ?
Elle est née en région parisienne pendant le confinement, si je ne dis pas de bêtises. À Poitiers, elle est arrivée l'année dernière. C'est donc tout nouveau pour les personnes qui ne nous connaissent pas dans la rue. C'est une association qui a été montée par une étudiante en médecine à Poitiers. Et donc l'année dernière, c'était tout nouveau, c'était compliqué de se mettre en place, mais on a quand même formé une petite équipe d'une dizaine de jeunes. C'est majoritairement des jeunes, même si c'est ouvert à tout le monde. Et puis on fait, selon les disponibilités de chacun, au moins une à deux fois par mois, un passage dans les rues.
C'est vrai que ça a été fondé à Paris par deux lycéennes. Maintenant, ce sont surtout des étudiants et étudiantes qui font partie de cette association dans les différentes villes où on la trouve. Et vous, Astrid, comment vous avez décidé de vous impliquer là-dedans ?
Moi, c'est une amie qui est venue me chercher. On fait partie de plusieurs associations d'encadrement de jeunes et même de la chorale. Et en fait, par la chorale, différentes associations, et voilà, elle est venue me chercher et elle savait à peu près mon attirance pour la chanson. Et elle m'a dit « Pourquoi pas, ça te correspondrait ?» Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'association à peu près en octobre-novembre de l'année dernière.
Alors, il s'agit donc d'aller à la rencontre de ces personnes sans-abri et de chanter, jouer avec elles de la musique. Comment ça se passe ? Comment on ose déjà aller à leur rencontre avec une guitare, avec une chanson ? Et comment se passe l'accueil ?
C'est pas forcément très simple avec les différentes personnes, mais on a déjà souvent un café ou un morceau de gâteau pour leur proposer de discuter. Et après, on a un livret avec des chants qui sont assez connus, des chants qu'on nous a demandés aussi, des personnes de la rue qui nous demandent de chanter des chansons. On leur propose, s'ils ne trouvent pas leur bonheur, ils peuvent nous donner un titre de chanson qu'on a là, avec nos téléphones et les enceintes. On peut jouer et chanter avec eux. Et puis oui, quand il y a la guitare, c'est bien sympa parce qu'il y a des personnes de la rue qui savent jouer de la guitare. Et donc, ils font des petits concerts solos avec nous, c'est rigolo.
Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une des plus belles rencontres que vous avez pu faire ou alors une au contraire où c'était difficile pour vous comment vous avez vécu ça ?
Alors, une belle rencontre, je pense, c'est être des femmes. Parce qu'elles... Bizarrement, elles vont plus se livrer avec des jeunes, peut-être parce qu'on est aussi majoritairement des filles. Et elles vont raconter leur petite vie et elles sont plus réceptives, à notre démarche. Et après, plus difficile, ça va être les personnes étrangères qui vont... la barrière de la langue fait que c'est un peu plus difficile. On arrive, grâce à l'anglais particulièrement, à bien discuter et puis on trouve des chansons anglaises qui collent bien.
Quels sont les titres qui vous sont le plus demandés dans votre petit livret? Est-ce qu'il y a un peu un hit parade?
Y a beaucoup de Jean-Jacques Goldman.
Ok.
Ouais. Et ensuite, ça va dépendre de chaque personne.
Et alors, j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est vraiment cette rencontre, c'est ça le plus important. Est-ce qu'ils vous font des retours sur ce que ça leur a apporté, ce moment-là, avec vous?
Il y en a, ils sont pas très... ils ne parlent pas beaucoup. D'autres, ça se voit qu'ils ils sont contents de voir du monde. Et oui, il y en a, ils ont eu des discussions. Ça touche au profond du cœur, quoi, parce qu'ils racontent leur vie et... On ne peut pas sortir indemne de ces rencontres.
Et comment vous faites justement, vous, le petit groupe, vous êtes combien actuellement de membres de l'association à Poitiers?
Ça varie entre 10 et 15.
Et vous vous soutenez entre vous, vous parlez de ces moments de rencontre, de ce que ces personnes vous ont confié?
Oui, à la fin de la maraude, qui dure à peu près une heure et demie, on fait un petit point pour savoir si on a eu des soucis, des moments où on était moins à l'aise. Et puis après, il y a des réunions une fois par trimestre à peu près pour voir ce qu'on peut améliorer, améliorer ou modifier. Dans le carnet aussi, par exemple.
Et vous recherchez des bénévoles?
On recherche des bénévoles, exactement. Il n'y a pas besoin de savoir très bien chanter, simplement avoir l'âme de discuter ou d'être être accueillant pour les personnes sans-abri. Voilà, quand même, aimer chanter, mais pas besoin d'être une virtuose. Hein.
Et alors, l'association Il y a de la joie a carrément fait un album. On écoutait un titre tout à l'heure. Il y a carrément des concerts. Enfin, ça prend une ampleur assez rapide, en fait.
Oui, c'est surprenant. Enfin, pour moi, c'est surprenant. Mais je pense que ça touche les gens qu'il y ait une association comme celle-ci. Et oui, ça prospère très bien.
Alors, merci beaucoup Astrid Ponroy, donc de l'association Il y a de la joie, d'être venue nous parler de ce que vous faites maintenant à Poitiers depuis presque un an. Et puis, vous recherchez des bénévoles, donc il suffit de vous contacter sur vos réseaux.
La première rencontre de cette année sera jeudi prochain. C'est tous les 15 jours de 18h à 19h devant l'église Saint-Porchaire.
Merci beaucoup, rendez-vous est pris. Tout de suite, je vous propose d'aller avec Isabelle à l'invitation de la mairie cet été pour la présentation de l'ouverture du parc de la Villa Bloch au public et de l'exposition permanente retraçant la vie de Jean-Richard Bloch et de sa famille.
Depuis 2020, on a eu vraiment la volonté d'ouvrir les espaces publics pour que les gens se les approprient ou se les réapproprient, comme dans le parc de l'Hypogée des Dunes, comme le palais, et donc comme... ici demain, c'est-à-dire qu'à partir du 20-21 septembre, les journées du patrimoine, ce parc va être rendu au Poitevin de Vin et au Poitevin, en tout cas il va être accessible tous les jours.
Nous sommes le mardi 16 juillet, dans l'enceinte de la villa Jean-Richard Bloch, anciennement la Mérigotte. Jusqu'à présent, ce lieu de résidence d'artistes n'accueillait le public que lors des portes ouvertes et des journées du patrimoine.
Le troisième week-end de septembre. Et donc on trouvait que c'était dommage finalement de priver les Poitevins et les Poitevins d'un espace remarquable comme celui-ci, un espace préservé.
Charles Réverchon-Billot, adjoint aux espaces publics et délégué aux droits culturels, présente l'ouverture du parc de la Villa Bloch au public ainsi que l'exposition permanente qui s'y trouve.
L'exposition elle a été construite avec un comité scientifique, donc on a associé Alain Kellavi-Léger qui est historien, on a associé Jean-Jacques Guérin qui est président de l'association VRID, Vienne Résistance Internement Déportation, des membres de la famille de Jean-Richard Bloch et France Bloch, et puis évidemment des membres de la direction Culture Patrimoine qui connaissent particulièrement bien le sujet, et y compris un des membres de l'équipe plutôt dédié au jeune public, puisque c'était intéressant pour nous d'avoir deux niveaux de lecture, un niveau plutôt pour adultes et un niveau pour enfants.
Élodie Leclerc, directrice adjointe culture patrimoine de la ville de Poitiers et de Grand Poitiers, précise le contenu de l'exposition.
C'est 9 panneaux de texte qui retracent l'arrivée de Jean-Richard Bloch et de sa femme au tout début des années 1900 et comment ce lieu est devenu un lieu refuge pour des artistes, écrivains, notamment des réfugiés espagnols qui sont venus ici créer. Il y a aussi l'époque où Jean-Richard Bloch crée les journaux. Puis on est aussi sur Magit, sa femme Marguerite, quand ils étaient exilés en ex-URSS. Donc voilà, on est aussi sur le vécu de cette famille poitevine, exilée, et qui sont revenus ici à la fin de la vie de Jean-Richard, et comment on est arrivé aussi à garder la reconstitution de son bureau.
Comme l'explique Madame Leclerc, c'est un projet qui s'inscrit dans des circuits plus globaux, comme celui de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne.
Le fait d'avoir une approche pour le public scolaire était souhaitable et c'était une demande forte aussi du corps enseignant.
Une exposition à ciel ouvert, donc, dans ce lieu de refuge qui sera partagé entre les artistes en résidence et les habitantes et les habitants de la ville.
Quoi de plus beau de rendre cette exposition permanente, ouverte tous les jours. C'est par les temps qui courent que France Bloch Sarrazin, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Et donc voilà, ce sera un hommage assez demandé et attendu aussi hein, de la part des historiens, de la famille, des associations comme la VRID. Et donc je crois que ce sera assez bienvenu et pertinent, en particulier en ce moment.
Et ce parc de la Villa Bloch ouvre donc au public à partir de ce week-end, journée du patrimoine. Et puis ensuite, ça reste ouvert. Tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Et elles sont proposées par Yves.
Oui, bonjour Anaïs. Alors, que faire à Poitiers aujourd'hui et pour cette fin de semaine? Premièrement, le bus Mes Tips Santé, bus itinérant de l'assurance maladie, fait étape aujourd'hui à Poitiers. L'objectif du bus Mes Tips Santé, c'est d'aller au contact des jeunes pour les encourager à adopter des comportements favorables à leur santé de manière simple et pédagogique sur des thématiques telles que l'accès au droit, à la prévention et à la bonne compréhension du système de santé. L'équipe de la CPAM de la Vienne sera là pour animer un espace Mes droits et démarches et un espace prévention pour l'occasion. Retrouvez le bus Mes Tips Santé de 10h à 18h devant La Ruche, la bibliothèque universitaire de lettres au campus de l'Université de Poitiers. Deuxièmement, le cinéma Le Dietrich organise du 18 au 24 septembre sa rentrée arc-en-ciel, un temps fort LGBTQIA+, autour d'un programme rempli d'avant-premières et d'inédits. Comme ce soir, venez découvrir ou redécouvrir un film culte de l'histoire du cinéma queer, Hairspray, de John Waters, sorti initialement en 88 et inspiré de l'icône drag Divine, en compagnie de L'Adam et de Daisy Rabble, pour cette séance unique. Rendez-vous ce soir à 20h30 au cinéma Le Dietrich. Et enfin, le Grand Metz, festival du confort moderne, ouvre ses portes à partir de ce soir pour trois soirées d'exposition, de concerts et de rencontres avec les artistes. Au programme de cette soirée d'ouverture, l'inauguration des premières expositions de l'année à partir de 19h et à 20h, c'est le concert de Yellow Magic Harp Chords réinterprétant les mélodies synth-pop du fameux groupe japonais Yellow Magic Orchestra. Et pour finir la soirée, Matt Petrolo proposera un DJ set dans le bar du confort moderne. Enfin, le festival de la régraterie, recyclerie établie à Migny-au-Sens, organise ce week-end, à l'occasion des 10 ans de l'association, son festival. Au programme de l'événement, une vingtaine d'artistes réaliseront une œuvre en matière de récupération pendant ce temps de festival. Vous pourrez donc observer leur travail sur place. Pendant ces 3 jours, il y aura également des concerts, des ateliers d'initiation et de rencontres avec les artistes. Ce sera l'occasion de questionner nos habitudes de consommation en découvrant le réemploi créatif. Rendez-vous à la Gréterie. À partir du vendredi 20 jusqu'au dimanche 22 septembre dans leurs locaux 58 rue de la Longerolle, Migny-Auxances.
Merci beaucoup Yves, on te retrouve bientôt dans Espace Matin. Si vous voulez participer à cette émission, c'est le moment de nous rejoindre, de devenir bénévole, de faire de la radio. Espace Matin, c'est du lundi au vendredi entre 8h et 9h et dès le 30 septembre. Et puis, autre rendez-vous de ce week-end, c'est le marathon du podcast organisé par Radio Pulsar en partenariat avec Podcast et puis le circuit, donc le festival de la carte culture. C'est ce week-end, vous pouvez encore vous inscrire, c'est le dernier jour. Dépêchez-vous en
équipe, vous pourrez vous amuser avec le son sur un thème imposé. Demain, il n'y aura pas encore le Café de la Presse, ça reprend aussi dès octobre, mais lundi, dans Séquence Midi, on parlera de la première saison culturelle de l'espace Gartempe à Montmorillon, et puis on parlera aussi de handicap, notamment sur la voirie rue du Faubourg du Pont-Neuf suite aux travaux. Est-ce que c'est plus simple de circuler quand on est en situation de handicap? Merci beaucoup Ayan pour la réalisation technique de cette émission. Ce soir sur Pulsar à 20h, ne ratez pas Metal Fury. Je vous souhaite à toutes une bonne après-midi.
Une puissance de professionnel, je dirais.
Pulsar.
Ça, c'est bizarre.
Il est de toi en plus.